En coloc. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Parler de religion et guerre dans le monde grec est évidemment un très vaste sujet. Je ne pourrai ici qu'aborder quelques aspects de cette question, même si je me limite chronologiquement à la Grèce archaïque et classique, disons en gros du 7e au 4e siècle inclus, et même si je me concentre plutôt sur le renouvellement qui est apparu ces derniers temps, ces dernières années, dans le traitement de la question de la guerre et des dieux. Plusieurs travaux, en effet, ont renouvelé l'approche, la perception que nous pouvions avoir de cette question, soit en étudiant des divinités, en prenant le cas de certaines divinités et en étudiant la façon dont elles interviennent dans le domaine de la guerre et du conflit. Ça a été le cas, par exemple, pour une divinité comme Artémis, mais aussi pour une divinité comme Aphrodite, dont je parlerai beaucoup aujourd'hui, soit en se livrant une étude approfondie de tous les épisodes où des dieux interviennent dans des guerres, dans des combats, et la façon dont les récits, les images mettent en scène cette intervention des dieux, de façon à mieux comprendre ce qui se passe dans le conflit où les dieux interviennent. Cependant, pour comprendre l'articulation entre guerre et religion dans le monde grec ancien, il convient d'évoquer deux, trois idées reçues ou faux-semblants ou questions préliminaires de façon à bien situer le débat. Je reprendrai d'abord la question qui a été évoquée précédemment dans la discussion que nous avons entendue il y a quelques instants, à la fin de la première séance, sur la relation entre guerre, conflit, violence. Je vais surtout parler de la guerre, c'est-à-dire ce que les Grecs appelaient le polémos. Je n'exclus pas la guerre civile, la stasis. Et vous voyez que les mots diffèrent, et la différence des mots est importante. Et je vais au contraire exclure, au contraire de ce qui a été fait dans le Proche-Orient ancien, pour le Proche-Orient ancien par exemple, je vais au contraire exclure les conflits entre les divinités ou touchant au monde des divinités. Et je pense en particulier à Hésiode, donc qui a déjà été évoqué par M. Thomas Römer, Hésiode, la théogonie d'Hésiode ou d'autres théogonies qui racontent comment le règne des dieux, le règne de Zeus a été établi, mais a été établi au moyen de différents conflits. Des combats, et tout le monde connaît donc les fameux combats contre les géants, la gigantomachie, ou les titans, la titanomachie. Et il est significatif que le mot utilisé pour désigner ces combats, ça ne soit pas la guerre, c'est le combat, le maché, l'affrontement. Et on n'est donc pas dans un contexte de guerre, au sens du polémos, c'est-à-dire effectivement de cette guerre institutionnalisée, régulé avec donc son système de fonctionnement, son système de valeurs, qui, même lorsqu'il est transgressé, car il y a des transgressions du système de valeurs, mais même quand il est transgressé, on reste dans le domaine du polémos. Et on n'est pas dans le domaine du pur conflit, de la pure violence. Donc le premier principe, c'est que la guerre n'est pas, et ça c'est tout à fait différent de ce que nous avons entendu tout à l'heure pour le Proche-Orient, la guerre entre les hommes n'est pas une guerre entre les dieux. Les dieux ne se font pas la guerre. Une fois que l'ordre de Zeus est établi, que les Olympiens règnent, ils ne se combattent pas entre eux, sauf une exception, c'est l'Iliade. Dans la guerre de Troie, les dieux se partagent en deux camps et vont se combattre, pas directement les uns les autres, mais par, disons, de façon intermédiaire, de façon, par le biais de l'appui qu'ils donnent à tel ou tel héros, mais ils descendent sur le champ de bataille. Les dieux de l'Iliade, étrangement, sont des dieux qui vont combattre et ils vont prendre des coups sur le champ de bataille. Arès est blessé, Aphrodite est blessé. Donc les dieux et tous ces dieux qui vont combattre, c'est les uns du côté des Troyens, les autres du côté des Achéens, sont des dieux combattants. Ce sont des dieux en guerre. Mais c'est une exception. Et cela ne correspond pas à ce que l'on, tout ce que l'on sait sur la pratique de la guerre dans l'époque archaïque et classique, où, comme nous allons le voir, les dieux, d'une certaine façon, interviennent dans la guerre, mais ils ne sont pas en guerre. Il faut donc exclure toute idée selon laquelle les guerres du monde grec, qu'il s'agisse des guerres entre cités, des guerres intestines, des guerres civiles, ou des guerres contre un envahisseur étranger, ces guerres ne sont pas des guerres des dieux. On ne va pas voir Athéna combattre du côté d'une cité et Zeus combattre du côté de l'autre. Non. Le système ne fonctionne pas comme ça. Si une cité reçoit, une armée reçoit l'aide de tel ou tel dieu, c'est parce qu'elle a procédé de la meilleure façon. Elle a su capter, pour une raison ou pour une autre, la bienveillance particulière de ce dieu. Mais ça ne veut pas dire que le dieu qu'il y a en face, un dieu qui va être vaincu. C'est inenvisageable. Les Olympiens ne se détruisent pas les uns les autres. Donc la guerre des dieux et la guerre des hommes sont des choses tout à fait distinctes. Simplement, les hommes peuvent vaincre s'ils savent capter l'appui, s'ils savent se gagner l'appui particulier d'une divinité ou de plusieurs divinités dans tel ou tel contexte. Voilà une première délimitation. De la définition de la relation entre religion et guerre dans le monde grec ancien. Une autre idée qu'il faut évacuer tout de suite, c'est celle qui, selon laquelle, puisqu'il y a un dieu qui est censé être le dieu de la guerre, Arès, ce dieu serait le principal intervenant dans les conflits, dans les guerres grecques. Paradoxalement, c'est tout à fait le contraire. Arès n'est pas complètement exclu, mais il est très peu présent dans les récits, dans les représentations que nous avons des guerres dans le monde grec. En réalité, plutôt que dieu de la guerre, vous savez qu'on cherche à se débarrasser de ces catégories, quand on étudie la religion grecque, on cherche à se débarrasser de ces catégories toutes faites, en disant « il y a des déesses de l'amour, il y a des déesses de la guerre, il y a la déesse du fou, du mariage ». Non, c'est fini, on ne pense plus comme ça. D'où le fait que, plutôt que dieu de la guerre, Arès est considéré plutôt comme le dieu de la fureur guerrière, de cette force extraordinaire dont il peut investir un guerrier et qui transforme ce guerrier, et surtout les héros dans les légendes et dans l'Iliade, transforme les héros de façon radicale, mais de façon presque excessive, car la fureur guerrière, à un moment donné, ne reconnaît plus sa limite et peut emmener le guerrier trop loin. Dans l'Iliade, ça, trop loin, ça va être le cas où un héros aveuglé par... il est devenu une machine à tuer, il extermine tout le monde devant lui, et à un moment donné, il arrive devant un guerrier qui est en fait un dieu déguisé. Et là, il est dans des situations de danger, mais il ne s'en rend pas compte. Il faut que quelqu'un d'autre le ramène à la modération, le ramène à la réalité et lui fasse comprendre qu'il ne doit pas engager le combat contre le dieu. La fureur guerrière, elle est donc en partie une vertu pour le guerrier, mais elle est ambivalente, elle est ambiguë. Elle risque d'emmener le guerrier trop loin, de lui faire perdre tout sens du réel, en fait, de l'emmener dans une sorte d'hubris qui va lui faire courir le risque de sa propre perte. De ce fait, la fureur guerrière d'Arès n'est pas, qu'on le voit à l'heure dans les récits des héros, des exploits des héros, n'est plus tout à fait à sa place ou de façon beaucoup plus limitée dans le cas de la guerre classique, enfin la guerre archaïque et classique, c'est-à-dire la guerre de la phalange. La guerre de la phalange politique, où il ne s'agit pas d'être le meilleur des guerriers individuellement, mais de tenir son rang et de savoir garder compact la ligne des hoplites, qui va enfoncer la ligne ennemie. Et là, la fureur guerrière, elle est non plus individuelle, elle devient collective, plutôt, et elle doit rester contenue, parce que si la fureur est trop grande, la ligne va être rompue, la phalange va perdre sa cohésion, et à ce moment-là, elle va être dispersée et vaincue. Donc Arès, finalement, est peu présent dans les récits de combat, dans les récits de guerre et de toutes les interventions de ce genre. Je vais prendre un exemple qui va nous permettre de, me permettre, disons, de montrer un peu l'éventail des modes d'action des divinités dans les combats, dans les guerres, et en même temps me permettre d'évoquer quelques figures divines que nous n'avons pas l'habitude de considérer comme vraiment impliquées dans les guerres. Et ce n'est pas un cas, ce n'est pas une bataille perdue. Je prends la bataille de Salamine, donc un conflit majeur, très connu, d'innombrables récits qui entourent cette bataille. Et c'est aussi une bataille où on en a des interventions divines extrêmement intéressantes. Je vais progresser, vous exposer comment les choses sont présentées dans les textes. Bien entendu, on est totalement dans la représentation. Je ne pose aucun... Ici, je ne place pas du tout mon intervention sous le domaine de l'historicité des choses. C'est purement de la représentation. Mais que nous donne-t-on à voir et à comprendre ? Avant la bataille, il y a d'abord une première manifestation qui est un prodige. Et ce prodige se produit à Éleusis, dans la plaine d'Éleusis, qui fait face à Salamine. La plaine d'Éleusis et Salamine se font face. Dans la plaine d'Éleusis, donc, on voit un nuage de poussière s'élever, un énorme nuage de poussière s'élever, traverser la plaine en direction de la baie de Salamine. Et de ce nuage sortent des voix, des bruits, des sons qui évoquent, dit-on, les chants, les cris, les bruits qui accompagnent la procession des mystes, c'est-à-dire de ceux qui se font initier au mystère de Déméter et Corée, au mystère, fameux mystère d'Éleusis, quand ils traversent la plaine entre Athènes et Éleusis. Donc c'est une évocation, cette nuée est une évocation du culte, des mystères et des célébrations des Athéniens envers Déméter et Corée. Il s'agit donc, de toute évidence, d'une manifestation des divinités de Salamine, Déméter, Corée et Iakos, et c'est un présage qui est conçu comme défavorable aux Perses et favorable aux Grecs. C'est première manifestation. Deuxième manifestation, la veille de la bataille, alors que les Grecs ont bel et bien décidé de combattre, un léger tremblement de terre se produit dans l'île de Salamine. Il est interprété également comme un présage favorable. Et immédiatement, les Grecs décident d'invoquer puisqu'on est là dans le local, décident d'invoquer des héros locaux, des héros, comme on dit en langage technique, épicoriques. Et ces héros locaux, ce ne sont pas de petits héros. Il y a en particulier, premier d'entre eux, Ajax, le grand Ajax, fils de Télamon, qui est donc un des plus grands guerriers de l'Iliade, et qui se trouve être aussi en même temps, dans la légende, le roi de Salamine. Donc lui, ses parents, ses ancêtres, et ce sont des ancêtres qu'on va chercher sur l'île voisine d'Égine, c'est Éaque, un grand personnage également de la légende grecque, Éaque, Télamon, etc. Donc Ajax et sa famille sont invités, sont convoqués en quelque sorte, pour venir aider les Grecs lors de la bataille qui se prépare. Donc ici, encore une fois, un présage, un signe, le tremblement de terre, et un signe qui est interprété cette fois-ci comme une possibilité de se concilier, de se rapprocher des puissances locales. Puissance locale, c'est évidemment un terme très important dans le domaine de la guerre, car la guerre est une réalité éminemment topographique. Et on va voir que selon l'endroit où se déroule la guerre, le type de puissance qui peut intervenir change. Donc, il est toujours bon de se concilier des puissances locales, là où va se dérouler la bataille, même sous une forme anonyme. On peut invoquer des héros, dire simplement les héros du lieu. Voilà, les héros d'ici, venez nous aider. Donc, ça, c'est la deuxième intervention. Troisième épisode, pendant la bataille, cette fois. Comme vous le savez, la bataille se déroule sur deux fronts. Il y a eu la flotte athénienne affronte la flotte perse du côté du détroit entre Salamine et le Pirée, tandis que les Corinthiens, la flotte corinthienne, elle, affronte les Perses de l'autre côté, vers l'ouest, puisque les Perses ont fait un mouvement tournant pour essayer d'encercler encercler les Grecs. Quant à Corinthe, On se rend compte, on voit très bien les choses, quand à Corinthe, on se rend compte que la flotte perse a fait le tour de l'île et s'apprête donc à aller combattre la flotte corinthienne. Les femmes de Corinthe montent à l'Acropole, à l'Acro-Corinthe, l'Acropole de Corinthe, où il y a un très important sanctuaire d'Aphrodite, et là supplient la déesse Aphrodite pour lui demander d'insuffler le désir du combat dans le cœur des Corinthiens qui sont sur les navires. Et le désir du combat, est très exactement Eros, le Eros tes makes. Nous allons revenir dans un instant sur l'intérêt que représente cette notion de Eros, l'Eros du combat. Enfin, après la bataille, une fois les Perses vaincus et Athènes délivrées, on nous dit que Thémistocle, donc le chef de la flotte athénienne, Thémistocle, en remerciement de la victoire, donc là nous sommes dans la phase post-victoire qui est toujours celle de l'action de grâce, des offrandes aux dieux, des remerciements. En remerciement de la victoire, donc, fit consacrer un sanctuaire à Artémis. Artémis, dite Aristoboulée, donc du bon conseil, l'Artémis, bonne conseillère, excellente conseillère, pour la remercier de lui avoir donné un avis juste, un bon avis sur ce qu'il fallait faire pour remporter la bataille. Ce qu'il fallait faire, on va le voir, c'est la ruse de Thémistocle, consistant à attirer les navires perses dans un détroit où ils perdaient tout l'avantage de leur supériorité numérique. Voilà donc quatre interventions, correspondant à quatre divinités, qui sont toutes des déesses d'ailleurs, et qui correspondent à quatre situations types dans l'univers de la guerre et de la bataille. En premier lieu, donc, j'accorde une certaine importance, je vous l'ai dit, au fait que les divinités et les héros locaux se mobilisent, alors soit spontanément, comme on l'a vu, parce que Déméter et Corée, donc les divinités d'Éleusis, donnent un signe qui est perçu de façon défavorable par les Perses et qui encourage au côté des Grecs. Et leur intervention, l'intervention des divinités, est expliquée par le fait que les Perses, ayant envahi la région, ont violé le sanctuaire d'Éleusis, sanctuaire des divinités, et l'ont incendié. Et Déméter, qui n'est pas une divinité. On ne dira pas que Déméter est une divinité guerrière. Ce n'est pas du tout ça l'enjeu. Mais Déméter est une divinité qui est connue comme pouvant soulever les choses par sa colère. Ce n'est pas une divinité. Il faut perdre certaines représentations des divinités comme étant Déméter, évidemment, toujours du côté des activités pacifiques de l'humanité. Oui, sans doute. Mais il ne faut pas oublier que dans l'hymne d'Homérique à Déméter, ayant appris que sa fille Corée a été enlevée par Hadès, entre dans une grande colère. Et cette colère fait trembler l'univers, parce qu'elle prive les hommes de leur substance, du blé. Donc elle met en branle un désordre cosmique par sa colère. D'où le fait de l'efficacité de la colère de Déméter, qui se traduit, dans le cas de Salamine, par cette espèce de présage. Ce présage, en même temps, attire l'attention sur tout un domaine évidemment très important, mais ça c'est très connu, je ne vais pas m'attarder dessus, mais un domaine très important de la guerre, de la relation de la religion et la guerre, c'est tout ce qui concerne les oracles, les devins, l'interprétation des signes et des prodiges. Alors, partout. Hein, c'est-à-dire on va solliciter un oracle ou des oracles pour savoir ce qu'il faut faire. Même les Perses le font, d'ailleurs, en Grèce. Ou bien il y a les devins qui accompagnent l'armée pour interpréter les signes que l'on va trouver dans les sacrifices, à l'ouverture des entrailles des animaux, comment interpréter. Et là aussi, on a de très nombreux récits qui expliquent comment les devins disent « Non, attendez, c'est pas le bon moment, attendez, il faut attendre un peu. Maintenant, allez-y, c'est le bon moment, attaquez. » Bref, il y a toute une science de l'interprétation des signes. Et également donc une science de l'interprétation des prodiges, comme on a vu là à propos aussi du tremblement de terre de l'île de Salamine. Donc, mais ça, bon, c'est quelque chose de très, très évident, si je puis dire, je ne vais pas m'attarder dessus. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est qu'une divinité comme Déméter, qui n'est pas une divinité a priori guerrière, peut très bien apporter une... réagir généralement à quelque chose qui vient empiéter sur ses droits, empiéter sur ses sanctuaires. Il y a un autre exemple extrêmement connu du point de vue historique, c'est quand le stratège athénien Milciade assiège la cité de Paros, dans les Cyclades, et croit pouvoir vaincre symboliquement la cité en allant s'emparer des objets sacrés, des hiéras, de Déméter, dans un sanctuaire qui se trouvait hors les murs, et veut donc pénétrer dans le sanctuaire pour s'emparer de ces objets sacrés, en se disant que s'il s'empare de ces objets sacrés, il va symboliquement vaincre la cité. Et en fait, il se casse la jambe, il a un accident, et en essayant de pénétrer dans le sanctuaire, il mourra de sa blessure. Donc là encore, Déméter a défendu son bien et a fait perdre la bataille à Milciade. Alors, à l'inverse de Déméter, on a vu que les divinités locales, comme celle d'Ajax, etc., et tous les combattants locaux, peuvent être appelés, ça c'est un autre événement, une autre façon importante, une autre donnée importante de la relation avec la religion, et là, là aussi, disons, la bonne compréhension et la bonne connaissance du terrain où on se trouve, et je ne parle pas simplement du terrain au sens stratégique, mais du terrain religieux où on se trouve, est très importante. Parce que si on trouve la bonne divinité ou le bon héros auquel sacrifier pour se concilier, on augmente ses chances de vaincre. Alors que si on ignore les héros ou divinités locales, on se trouve là en grand danger d'être vaincu. Parce qu'eux-mêmes défendent en quelque sorte leur territoire. Alors, extrêmement intéressant et le rôle prêté à Aphrodite. Et je voudrais m'attarder un instant sur cette histoire-là. Des études récentes ont montré qu'on ne peut pas cantonner Aphrodite dans les domaines auxquels on pense souvent, de la féminité, de la séduction, de la sexualité, etc. Une image trop botticellienne, je dirais, d'Aphrodite a longtemps régné et a caché les connivences, en fait, très fortes d'Aphrodite avec l'expression de la force, de la puissance et du combat. Et il faut d'abord se rappeler, ce n'est pas une petite affaire, qu'Aphrodite et Eros avec elle sont pratiquement les seules divinités, les seules puissances divines qui imposent leurs lois à tout l'univers. Personne n'échappe à Eros. Eros règne sur tous les êtres, y compris les dieux. Donc les dieux sont soumis à la loi d'Aphrodite. En plus, quand les Corinthiennes, demandent à Aphrodite de donner l'Eros du combat, enfin c'est pas en plus, c'est de ce fait, quand les Corinthiennes demandent à Aphrodite de donner l'Eros du combat, le désir du combat aux Corinthiens, on voit que cet Eros, ce désir, c'est pas quelque chose de doux, hein, c'est pas une douceur, c'est une force impérieuse. C'est-à-dire que les Corinthiens ne pourront pas échapper à l'envie d'aller combattre. C'est pas une envie de combattre, c'est être soumis à la loi de l'élan, du désir, qui vous pousse inéluctablement à agir. En plus, il y a une proximité sémantique, un jeu de mots, mais pas seulement un jeu de mots que font les Grecs entre Eros et Eris, la discorde. Ce n'est pas seulement un jeu de mots, parce qu'en fait, ce rapprochement entre Eros et Eris traduit une conception que l'on a bien mis en lumière, que les Grecs ont du mélange des corps, de la mixis, la façon dont les corps se réunissent, s'assemblent, à la fois dans la rencontre amoureuse, et dans la rencontre au combat, puisque la rencontre au combat est une rencontre des corps que les Grecs pensent sur le même modèle que la rencontre amoureuse. Et dans l'un et l'autre cas, c'est la même force, le même élan qui pousse les êtres l'un vers l'autre. Aphrodite, donc, est bien placée pour insuffler une ardeur qui peut être aussi bien dirigée vers le domaine guerrier que vers le domaine amoureux. On comprend mieux, d'ailleurs, à ce passage de ce moment-là, la proximité d'Aphrodite et Arès, puisqu'ils forment couple dans le Panthéon. Ils forment couple, et cette proximité, du coup, apparaît moins comme étant une sorte d'union des contraires, de deux entités qui sont totalement à l'opposé l'une de l'autre, que comme, au contraire, une union des complémentaires. La différence essentielle étant que Aphrodite, si elle peut insuffler l'amour, l'élan vers le combat, est aussi une divinité qui veille sur la concorde des citoyens, sur l'amour que partagent les citoyens entre eux d'une cité, de façon à garder la cohésion de la cité. Il y a donc une très grande logique dans la prière des Corinthiennes, et cela explique que l'Aphrodite de Corinthe, après la bataille de Salamine, a reçu des offrandes de prix, un taureau en bronze, des choses. Et Simonide, le poète grec Simonide, donc composa même une épigramme pour chanter donc l'intervention d'Aphrodite dans la bataille de Salamine. La quatrième intervenante, Artémis, est certainement une des divinités les plus impliquées dans un certain nombre de récits de combats, et plus particulièrement dans les combats et les épisodes qui se déroulent non pas dans une plaine bien ouverte, bien balisée pour un combat classique où deux armées, deux phalanges se rencontrent l'une contre l'autre, l'une face à l'autre, mais plutôt dans les lieux où il devient difficile de se repérer, de trouver son chemin, où on risque de s'égarer. Tous les domaines où il y a une forme d'incertitude, on ne sait plus très bien où on se trouve, car Artémis est à la fois une déesse qui protège les passages, les traversées, passages dans les montagnes, traversées à travers la mer ou à travers d'autres formes ou dans les marais, là où l'eau et la terre se mélangent, etc. Donc elle a un rôle de gardienne, de protectrice du bon passage. Et du coup, inversement, elle est aussi celle qui peut égarer, celle qui peut piéger ce qu'elle veut piéger en les égarant dans un univers où ils ne se reconnaissent plus. Alors, il est évident que l'Artémis de Salamine, associée à Salamine, se trouve bien dans cette configuration-là, parce que la ruse, comme je vous l'ai dit, qu'elle aurait inspirée à Thémistocle, c'est celle qui consiste donc à égarer la flotte perse, en quelque sorte, à faire en sorte que les Perses s'engouffrent, l'énorme flotte perse s'engouffre dans les détroits extrêmement resserrés entre l'île de Salamine et le continent, et là où les Grecs ont pu arrêter la flotte perse et en fait la combattre sans craindre sa supériorité numérique. Inversement, toujours dans le contexte de la guerre médique, Artémis, il y a un épisode qui se situe dans un environnement tout proche, dans le territoire de Mégare, donc à quelques kilomètres de là, en face également, pas loin de Salamine, où des archers perses, des combattants perses, se sont aventurés, et la nuit les a surpris, et là, ils se sont complètement égarés, et on dit qu'Artémis les a égarés, en fait, et ils ont cru entendre des bruits, comme s'il y avait des guerriers à proximité, ils ont tiré toutes leurs flèches contre une paroi montagneuse qui se trouvait à côté. Et au petit matin, quand les soldats grecs sont intervenus, ils n'avaient plus de flèches, ils ne pouvaient plus se défendre. Ils ont donc tous été tués ou faits prisonniers. Donc les Perses, ce contingent perse, a été égaré par Artémis, alors que Artémis va aider les Grecs, au contraire, à trouver le bon chemin, le bon parcours pour la victoire. Artémis peut aussi intervenir, pour donner un autre exemple, simplement pour donner un autre exemple, rapidement, Artémis, donc égarement, entre égarement et guide, il y a un autre épisode qui est très très intéressant, qui est très parlant aussi, c'est non plus dans le cadre de guerre médique, mais cette fois-ci à la fin de la guerre du Péloponnèse, on est en 404-403, l'hiver 404-403, Athènes est en révolution, enfin, il y a eu un coup d'État, une oligarchie extrêmement tyrannique, les 30 tyrans s'est installé, et les partisans de la démocratie se sont éparpillés, mais quelques-uns se regroupent à la frontière de l'Attique, avec la Béotie, dans les montagnes, donc dans un lieu isolé, protégé, etc. Ils se regroupent petit à petit, et au moment, pour pouvoir combattre les 30 tyrans, ils décident de gagner le port du Pirée. Qui se trouve donc, il faut traverser tout le territoire pour arriver au port du Pirée, à partir de l'endroit où il se trouve. Et c'est donc une traversée dangereuse, parce qu'ils ne peuvent pas le faire de jour, parce qu'ils le font de jour, ils seront attaqués par l'armée des 30 tyrans. Ils le font donc, ils gagnent le Pirée, parce qu'ils savent qu'il y a des partisans de la démocratie au Pirée, ça c'est bien connu, mais pour y arriver, ils font une traversée du territoire de nuit, donc dans des conditions très défavorable. C'est une nuit sans lune, il fait un temps exécrable, il pleut, il neige, etc. mais ils sont aidés par une colonne de feu qui apparaît, une colonne de feu qui les guide tout le long du chemin, depuis la montagne jusqu'au Pirée. Et cette colonne de feu, naturellement, est interprétée comme étant une manifestation d'une autre Artémis, l'Artémis porte-lumière, Phosphoros. Et du coup, après la victoire des démocrates au Pirée, ils vont instaurer un autel de l'Artémis Phosphoros. Donc on voit bien comment toutes ces questions, toutes ces interventions s'entremêlent, se complètent. Et s'il y a une chose qui est évidemment importante dans toute cette façon dont les dieux interviennent, c'est que les rôles sont interchangeables. C'est-à-dire qu'une divinité ou un héros qui peut intervenir dans un cas parce que la bataille se présente d'une façon telle que c'est lui qui sera le plus efficace pour venir en aide aux Grecs, dans une autre bataille, dans un autre lieu, il sera là simplement parce qu'il est local, parce que c'est un dieu local. Et c'est pas la même chose. Les rôles sont interchangeables. Les dieux se trouvent tantôt dans une position, tantôt dans une autre. L'important, c'est de savoir quel est le dieu qui est le mieux placé pour intervenir ce jour-là, à cet endroit-là. Du coup, les combinaisons entre les différents acteurs divins peuvent varier. On peut trouver des cas très différents. Mais l'important, c'est que la logique est toujours une logique combinatoire. C'est-à-dire qu'on ne trouvera jamais une bataille, en fait, ou une guerre où il y a un dieu qui mène les choses d'un bout à l'autre. Ce sont toujours des dieux et des héros qui sont associés pour, au final, donner la victoire aux Grecs. Bien entendu, j'ai parlé volontairement de divinités qui sont peu concernées a priori, mais qui sont en réalité très concernées par la guerre. On pourrait redire d'autres choses à propos de divinités qui sont tantôt présentes, tantôt absentes. Poséidon, par exemple, voilà un cas intéressant. Poséidon est absent de la bataille de Salamine, bataille navale, mais Poséidon est totalement absent. Alors qu'il intervient dans la bataille qui a précédé la grande bataille navale du cap Artémision, au nord de l'Eubée, donc la première rencontre entre les Grecs et les Perses. Et pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y a eu, avant la bataille, une tempête épouvantable qui a détruit une bonne partie de la flotte perse avant la bataille, donc qui a déjà affaibli les Perses avant la bataille. Et ça, c'est une intervention, évidemment, de Poséidon. Du coup, Poséidon est présent dans une des batailles navales, mais pas dans l'autre. Ce qui montre bien qu'il n'y a pas de choses définitives. Voilà, Héra aussi, on pourrait parler d'Héra qui intervient de différentes façons, mais le temps passe et je ne vais pas m'attarder sur les questions. Je voudrais quand même, pour boucler et finir mon parcours du combattant, parce que c'est un peu ça ce que j'ai fait, un parcours du combattant, terminer quand même par ce qui scelle, au point de vue à la fois pratique et religieux, toute bataille. Pas toute guerre, mais toute bataille, c'est l'érection du trophée. Il n'y a pas de bataille gagnée sans érection d'un trophée. Le trophée marque le fait que l'adversaire s'est enfui, il est parti, il a laissé le terrain, et que donc le terrain appartient au vainqueur. Les trophées sont toujours érigés en l'honneur d'une divinité particulière qui est le Zeus du trophée, Zeus Tropaios. Et Zeus, qui est assez pas que ça arrive, mais il n'est pas très impliqué en tant que défenseur d'un camp contre l'autre. Ça arrive, mais c'est quand même pas très fréquent. Oui, il y a quelques cas à Platée, la bataille de Platée, ou des choses comme ça, mais c'est pas un dieu qui est forcément toujours beaucoup impliqué dans la défense d'une armée. Mais quand il s'agit de clore la bataille, de marquer que cet aspect-là du conflit est terminé, là, il est là. Et c'est lui, donc, qui signale, qui, en quelque sorte, scelle la victoire d'un camp en recevant l'hommage du trophée d'armes qui va rester, qui parfois, comme vous le savez, a été monumentalisé. Certains sont devenus des monuments en dur, et donc nous les connaissons pour cette raison. Voilà donc quelques aspects d'un parcours où je souhaite surtout montrer qu'en réalité, les dieux et la guerre, en quelque sorte, donc, les dieux dans la guerre, et non pas les dieux en guerre, les dieux dans la guerre, n'agissent pas d'une façon très différente que lorsqu'il s'agit pour d'autres activités humaines, finalement. C'est un peu le même modèle de fonctionnement. Les dieux sont associés, sollicités, ils arrivent, on peut les combiner d'une bonne façon, de la meilleure façon possible pour obtenir leur faveur, etc. Ils n'agissent pas de façon isolée, mais souvent, donc, toujours en association, selon leur propre façon d'agir, leur propre domaine d'intervention. Et ils agissent pour la guerre comme ils pourraient agir pour la fondation d'une cité, une activité, une autre activité. Il n'y a pas de, je dirais, même si la guerre, évidemment, est un domaine d'activité bien particulier et qui a ses règles et qui a ses modes de fonctionnement, pour les dieux, on ne voit pas de rupture, en quelque sorte, entre l'activité, leur activité vis-à-vis des hommes en guerre que vis-à-vis des hommes en paix. Merci.